Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International Évreux pour la dernière émission de la saison, puisqu'après on va se quitter pendant 2 mois, pendant la pause d'été. Et on sera de retour au mois de septembre, on vous dira la date tout à l'heure pour faire durer le suspense. Voilà. Donc dernière émission de l'année, toujours beaucoup de sujets par rapport aux droits humains. Et là, on entendait pendant la présentation du générique cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça m'a fait penser, en disant tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Et aujourd'hui, on va vous parler à de nombreuses reprises et sous différents aspects de la grande problématique actuelle des réfugiés et des migrants. Je sais qu'on vous en a déjà parlé, mais on vous en reparlera encore souvent. Et que ces êtres-là, effectivement, ils n'ont pas le droit à la même dignité et au même droit que les autres. Et encore une fois, nous on pose la question, pourquoi ? Donc voilà, on va vous parler effectivement de pas mal de pays, de Libye, de Népal, je vous donne les pays ce soir, d'Afghanistan, et d'autres encore, de Hongrie aussi je crois, et puis pour vous en parler avec moi, il y a Mina.
Bonsoir.
Se dresse sur sa chaise pour parler dans le micro, parce que vous ne la voyez pas, mais Mina a un souci de taille pour atteindre le micro. Il y a François.
Oh, c'est pas gentil ça.
Bonsoir.
C'est pas méchant.
Non, c'est les micros qui sont hauts.
C'est pas méchant du tout. C'est vrai. Ça n'a rien de méchant.
Non. J'ai grandi là d'un coup.
Voilà, c'est ça. Il y a Randon.
Bonsoir.
Et puis il y a.
Il y a Didier.
C'est moi. Voilà. J'espère que vous m'entendez mieux ce soir parce que la dernière émission, on avait un souci de micro. Donc j'ai réécouté l'enregistrement. Effectivement, le son, quand je parlais, j'utilisais un micro duquel le son n'était pas terrible. Donc on m'entendait pas très bien. Donc j'espère que ce soir ça marche mieux. Voilà. J'ai essayé de parler un peu plus fort.
Non, c'est pas une question de parler fort ou pas, c'est que ça grésillait.
Bah oui, je sais. Non, mais l'autre fois le son était.
Non, mais là je peux dire ce soir ça grésille.
Ah, ça grésille.
Je l'entends moi.
Bon. Donc voilà. On fait avec les moyens techniques qu'on a. Hein. De toute façon, voilà. Pour vous présenter l'émission ce soir, puisqu'on va parler souvent de migrants et de réfugiés à plusieurs reprises. Je vais vous lire un petit texte d'appel qui a été co-signé par Amnesty International et beaucoup d'autres ONG, qui est sur le site de Emmaüs, l'association Emmaüs, et qui est un rappel par rapport au gouvernement français actuel, le gouvernement de M. Macron, pour un changement radical de politique migratoire en France. Alors voilà ce que dit ce texte. Plus de 200 organisations, des très connues à des micro-collectifs dans des villages, lancent un appel public interassociatif à Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Gérard Collomb pour que le gouvernement change radicalement sa politique migratoire. Elles réclament l'organisation d'une conférence nationale d'urgence pour qu'émergent des politiques alternatives d'accueil. Le ministre de l'Intérieur a fait connaître ses premières intentions en matière de politique migratoire et nous déplorons qu'il y manque l'engagement impératif de mettre un terme aux violences policières à l'encontre des migrants et réfugiés. De même, aucun mot n'a été prononcé pour annoncer la fin de l'intimidation à l'égard de citoyens ou associations qui, sur le terrain, s'efforcent d'assurer accueil et solidarité à leur égard. Deux priorités qu'il faut d'urgence mettre en œuvre au regard des situations qui prévalent à Paris, de nouveau à Calais, à la frontière franco-italienne, mais aussi ailleurs en France. Pourtant, la situation actuelle le démontre implacablement. La gestion répressive des migrations internationales et le non-respect du droit d'asile qui prévalent dans la plupart des pays d'Europe, et en France en particulier, sont un échec effroyable. Tout d'abord parce que les guerres, les violations des droits humains, l'aggravation des inégalités et les catastrophes climatiques jettent un nombre incompressible de personnes sur les routes de l'exil et aucune police au monde ne pourra jamais empêcher des jeunes de chercher à se construire un avenir ou des familles de vouloir protéger leurs enfants. Ensuite, parce que tarir les flux d'arrivée, selon les mots mêmes du ministre, donc c'est M. Collomb, ministre de l'Intérieur, qui a dit ça, relève de l'illusion et du mensonge et que nous payons au prix fort des milliers de vies perdues chaque année en Méditerranée et sur les autoroutes d'Europe, des centaines de millions d'euros gaspillés tous les ans, d'insupportables souffrances humaines, mais aussi des territoires sous tension, des bénévoles et des citoyens choqués et épuisés. De tels choix politiques fracturent nos territoires, dressent les hommes et les femmes les uns contre les autres et nourrissent le rejet de l'autre et le repli sur soi. Nous, membres d'associations nationales, collectifs de migrants ou citoyens réunis dans des initiatives locales de solidarité avec eux, composons une grande partie de la société civile organisée qui tous les jours sillonne le terrain pour pallier les manquements, l'aveuglement et l'inhumanité des politiques publiques. Nous avons vu des dizaines de milliers de personnes ces derniers mois s'engager dans leur quartier ou dans leur village pour témoigner de l'humanité la plus élémentaire, offrir réconfort et dignité à des personnes accablées par des parcours de souffrance et de danger, voyant leurs droits fondamentaux tout simplement niés par les autorités de l'État. Face à ce qui constitue un véritable état d'urgence, nous appelons les responsables politiques et administratifs à poser des vraies questions. Notre conception de la justice admet-elle que des militants de solidarité soient harcelés et jugés comme délinquants, ou que les contributions alimentaires soient interdites par arrêté municipal? Les droits fondamentaux que nous aspirons à voir respectés à travers le monde sont-ils compatibles avec la détention de milliers de personnes qui ont pour seul tort d'avoir cherché à survivre et bâtir un avenir meilleur? Nous qui construisons chaque jour une France solidaire et accueillante, nous appelons donc le président de la République et le Premier ministre à convoquer d'urgence une conférence impliquant tous les acteurs afin qu'émergent des politiques alternatives d'accueil et d'accès aux droits empreintes de solidarité et d'humanité. Voilà donc le texte de cet appel qui a été signé par beaucoup d'associations, effectivement, comme dit le texte, connu ou moins connu, parmi lesquelles Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la CAT, le CCFD Terre solidaire, etc. etc. Et j'en oublie, on m'excusera. Donc, je pense qu'il faut faire le plus possible de caisse de résonance autour de cet appel. Il est important, effectivement, que les derniers propos du ministre de l'Intérieur soient considérablement amendés. Et dans cette optique-là, il y a Amnesty qui a mis, effectivement, par rapport à la journée internationale des réfugiés, qui a eu lieu le 20 juin 2018, c'est tous les jours, la journée internationale, c'est le 20 juin de chaque année, a mis en ligne, ça, je vous conseille d'y aller, ça prend quelques minutes, a mis en ligne c'est pas du tout un jeu, c'est un petit test sur Internet, sur le site amnesty.fr, et vous allez dans la rubrique réfugiés, et vous avez la possibilité de dire en quelques mots au président de la République pourquoi vous souhaitez que la France accueille plus de réfugiés. Donc vous donnez vos raisons. Ça a commencé là depuis quelques jours, et l'action durera pendant un an. Donc vous avez jusqu'au 20 juin 2018, enfin un petit peu avant, parce que le 20 juin 2018, l'ensemble des pensées remis sur le site d'Amnesty sont remis en main propre à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Donc il y a déjà ce nombre de gens qui se sont exprimés. Et par exemple, Michel B. a dit « Je ne voudrais pas vivre dans un pays entouré de murs ». Une autre personne, Christian, a dit « Parce que la France se doit d'être exemplaire ». Et une autre personne, je vais vous citer trois par choix, comme ça. Une certaine Danielle a dit « Parce que le vivre ensemble commence par l'accueil de l'autre ». Voilà. Donc vous avez la possibilité, vous pouvez en écrire beaucoup plus long, je crois que c'est limité à 150 caractères, donc vous pouvez vous exprimer plus longuement. Allez sur le site d'Amnesty, faites part de vos réflexions et participez à cette campagne pour faire effectivement infléchir la prise de position actuelle du gouvernement par rapport à l'accueil des réfugiés. Et il y a Renan qui doit compléter mon intervention, je lui laisse la parole.
Oh, moi c'était un petit coup de gueule quand même, par rapport aux réfugiés, quoi, parce qu'en fin de compte, l'Europe est complice de la Libye. L'Union européenne...
De la Libye, excuse-moi de t'interrompre, le pays, pas ça.
Ah oui, de la Libye, oui, la Libye.
Elle apostrophe ou Libye
Mais ça ne voulait rien dire autrement. Voilà, il m'a coupé dans mon élan.
Ah, excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave.
La Libye, le pays.
Tout à fait. Alors, l'Union européenne continue à coopérer avec la Libye pour empêcher les réfugiés d'arriver en Europe. Une coopération à l'origine de véritables drames. L'UE permet aux gardes-côtes libyens de renvoyer les réfugiés et les migrants dans un pays où la détention illégale, la torture, le viol sont monnaie courante. Elle élargit les pouvoirs des gardes-côtes libyens tout en détournant les yeux des graves risques immanquablement liés à une telle coopération. Les interceptions menées par les gardes-côtes libyens violent souvent les normes internationales, notamment en ce qui concerne le recours aux armes à feu. En effet, les réfugiés et les migrants interceptés par les autorités libyennes sont ramenés sur les côtes libyennes, d'où ils sont presque toujours envoyés dans des centres de détention pour y être détenus indéfiniment. Ils y sont soumis à la torture, aux coups, aux viols et à l'exploitation par les gardiens. Le fait d'encourager ces gouvernements à intensifier le contrôle des frontières risque d'exposer un nombre croissant de personnes à des abus. Les dirigeants de l'UE devraient plutôt veiller de façon prioritaire à sauver des vies, à offrir des voies sûres et légales aux personnes qui s'enfuient et à améliorer le respect de l'État en droit et la protection des droits humains. Donc, en fin de compte, Amnesty, ils font 5 demandes aux dirigeants de l'Union européenne. Donc, la première, c'est ouvrir et de développer des voies sûres et légales pour les réfugiés et les migrants. Ça, on en a souvent pas parlé. Augmenter les capacités des équipes de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, dans les zones où se produisent la plupart des naufrages, à la mesure du nombre de départs depuis l'Afrique du Nord. Mettre un terme à toute coopération avec les autorités libyennes qui mènent au renvoi de réfugiés et des migrants vers la Libye, où ils risquent d'être soumis à la détention limitée, à la torture, au viol et d'autres violations de leurs droits, et de concentrer plutôt ses efforts sur l'amélioration de la situation des droits humains dans le pays. Réviser sa politique générale à l'égard des pays tiers en matière de coopération et de migration afin de garantir une protection adéquate des droits fondamentaux des réfugiés et des migrants. Voilà ce que j'avais à dire, donc de la complicité entre l'Europe à part la Libye.
Bien sûr, de toute façon, ça avait été dénoncé dès le début quand l'accord entre l'Allemagne, la France et la Turquie avait été mis en place par Amnesty International, entre autres, en disant que de toute façon, puisque suite à cet accord, les gens qui cherchaient à migrer passeraient par la Libye, c'est ce qui se passe effectivement, que les conditions seraient encore beaucoup plus épouvantables pour eux que de passer par la Turquie, chose qu'ils faisaient avant. Donc les faits nous ont malheureusement donné raison très vite.
Tout à fait.
Bon, Françoise qui doit vous parler des enfants, on m'a-t-on dit.
Voilà, moi je vais
C'est un peu sa spécialité, les enfants.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais vous parler des enfants invisibles, enfants fantômes. Vraiment, j'ai été très surprise quand j'ai lu des extraits du dossier que publie la Commission des droits de l'enfant d'Amnesty, en trouvant ces chiffres. État des lieux dans le monde, 290 millions d'enfants invisibles. Il n'est pas aisé d'obtenir des données fiables puisqu'il s'agit justement de repérer les enfants qui ne sont pas inscrits dans les registres d'état civil. Certaines données sont obtenues en utilisant des méthodes de sondage par questionnaire et extrapolation. Les données sur les enregistrements des naissances proviennent d'études réalisées entre 2010 et 2012. Elles couvrent 161 pays et proviennent de 300 sources différentes sur une période de 20 ans. Indicateur approximatif, la population mondiale en janvier 2015 est estimée à 7,3 milliards d'habitants. Les enfants de moins de 5 ans représentent 9,6% de la population, soit 701 millions. L'enregistrement des naissances est un processus en 3 étapes. La déclaration, acte volontaire des parents ou d'un autre adulte, l'enregistrement lui-même, acte administratif exécuté par une personne assermentée, la délivrance d'un certificat de naissance écrit. Un ensemble de conditions est nécessaire au déroulement de ce processus. En tout, on compte 230 millions d'enfants de moins de 5 ans non déclarés dans le monde, soit un enfant sur 3. Mais les situations sont très différentes selon les régions du monde. C'est en Asie du Sud, Inde, Bangladesh en particulier, que le nombre d'enfants non déclarés est le plus grand. Proportionnellement à la population, c'est en Afrique de l'Est et du Sud et en Asie du Sud que le nombre d'enfants invisibles est le plus important. Au total, c'est 290 millions d'enfants qui n'ont pas de preuve de leur existence, soit 45% de la population mondiale des enfants de moins de 5 ans. Et je vais vous lire le travail que fait un instituteur au Sénégal. Au Sénégal, le long combat de Mamadou Diédou pour que les enfants aient un avenir. Au Sénégal, un enfant sans acte de naissance n'a pas d'existence juridique, ne peut ni être soigné gratuitement, ni bénéficier de la protection des mineurs, et ne peut poursuivre sa scolarité après le CM2. Bien souvent, ce sont les parents, par négligence ou manque d'information, qui n'ont pas fait les démarches nécessaires. La date légale dépassée, 1 an après la naissance, il devient compliqué de régulariser sa situation. Il faut alors engager une procédure juridique coûteuse auprès de la mairie ou du tribunal. Si le problème concerne un nombre important de personnes, une audience foraine est organisée et c'est un juge, sur ordre du ministère de la Justice, qui vient dans la localité pour régulariser les personnes concernées. En Casamance, dans le sud, plus de 40% des enfants sont des fantômes. Dans l'école primaire proche de Cynthia, ce chiffre a décliné grâce aux efforts de Mamadou Diédou, instituteur à Kolda, qui s'est battu avant que le gouvernement se saisisse du problème pour redonner une identité légale aux enfants fantômes de son école. Il a créé une association dont le nom en peul signifie « porte de la réussite » et il a fait du porte-à-porte dans les quartiers où le problème est endémique pour convoquer les pères à des réunions auxquelles, bien souvent, ils ne se présentent pas. Devant ces réticences, ils sensibilisent les enfants pour qu'ils en parlent à la maison. Mais ils reviennent souvent déçus de voir que leurs parents ne les écoutent pas. D'où son idée d'un spectacle scolaire où les parents sont invités et voient leurs enfants jouer des sketchs sur l'état civil, des situations du quotidien où l'acte de naissance est primordial, quitte à leur faire peur. Une sortie scolaire qui se passe mal, une chute ou un accident, l'enfant blessé ou mort, comment l'identifier? Les mères y sont sensibles. Les enfants invoquent le manque de moyens. Alors oui, parfois c'est justifié. Mais combien ai-je vu utiliser cet argument? Dit Mamadou. Alors que pour le baptême de l'enfant, ils ont sacrifié un bélier, 76 euros. Ils disent après ne pas pouvoir payer un acte de naissance, 30 centimes. Les parents ne possèdent eux-mêmes pas toujours leur propre acte de naissance. Ce sont les familles les plus pauvres qui ne savent ni lire ni écrire et n'ont jamais été à l'école. Dans ce cas, ils remplissent les requêtes d'état civil et les déposent au tribunal. Mamadou est le seul professeur sur les 12 de l'établissement à faire partie de l'association. Les autres membres sont des parents d'élèves ou des lycéens qui souhaitent aider leurs jeunes camarades. Sur les 96 élèves de CM2, il y en a encore 25 qui n'ont pas d'acte de naissance et ne pourront pas faire l'examen cette année si le ministère de la Justice ne réagit pas plus vite. Le gouvernement doit jouer son rôle, mais on ne peut pas l'attendre pour trouver des solutions à ce problème. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, dit Mamadou qui ajoute « C'est mon combat et je ne m'arrêterai pas tant que ces enfants n'auront pas récupéré leur identité. » Voilà, je trouve un beau témoignage.
Tout à fait, ça rappelle que avoir une identité, c'est nécessaire au premier droit, c'est-à-dire celui d'exister, effectivement, parce que sinon, quand on n'a pas d'état civil, on n'existe pas sur un plan légal, donc on ne peut réclamer aucun droit. Et tout découle de ça. Donc effectivement, c'est important ce que vient de dire Françoise, et cette campagne pour effectivement faire en sorte que, combien tu disais, de millions d'enfants,
290 millions
sont privés d'identité, c'est absolument faramineux.
Ah oui, ça m'a
c'est
surpris. Faramineux.
Ouais, je suis impressionné par les chiffres.
Oui.
Et
oui.
Quand tu parlais d'enfants fantômes, j'ai eu peur tout d'un coup qu'on soit une émission où on allait parler des fantômes et des revenants, mais non, c'était tout à fait autre chose. Oui. Mais en fait, non, mais c'est fondamentalement, on plaisante, mais c'est fondamentalement important, puisque effectivement, tant si on n'a pas d'identité, de carte d'identité et d'existence légale, on n'a pas aucun droit. Voilà, donc il y avait Ronan qui voulait vous parler, qui voulait il vous le dira vous-même.
Ouais, lui-même. Une bonne nouvelle.
Bon, bah voilà, une bonne nouvelle.
Papa, tout à l'heure, il y a un petit coup de gueule, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est des personnes en plus qu'on a suivies. La bonne nouvelle, elle est fraîche parce qu'elle date, si on peut appeler ça fraîche, bon, elle date du 26, donc elle date d'hier. Des sœurs yézidis enfin en sécurité. Après un périple de 3 ans, Kurté, Kamé, Nouré et Béché vont rejoindre leur famille en Allemagne. Elles ont quitté l'Irak en 2014. Les attaques du groupe armé
les attaques du groupe armé État islamique qui soumet les femmes et les jeunes filles à de terribles traitements, viols, mariages forcés, esclavage sexuel, les ont poussées à fuir dans l'espoir d'être en sécurité. Trois ans plus tard, après un périple qui les fait traverser au péril de leur vie, l'Irak, la Turquie, la Grèce, elles ont enfin pu rejoindre leur famille en Allemagne. À savoir aussi qu'elles sont restées pratiquement un an, elles sont restées bloquées en Grèce en passant de camp en camp. Donc là, elles ont pu rejoindre leur famille en Allemagne, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est des personnes pour qui, justement, on a fait une action.
On a fait une action, effectivement, je me complète, au mois de mars dernier,
où on
réclamait que, effectivement, ces femmes qui étaient donc coincées, entre guillemets, en Grèce, et venant d'Irak, puissent effectivement avoir un accès sûr dans un pays sûr européen.
Il y avait une personne très âgée de 94 ans, quelque chose comme ça.
92 ans, oui.
Et surtout que pendant l'année qu'ils sont restés en Grèce, et les enfants n'ont pas pu être scolarisés. Donc c'est pas évident. Quoi. Donc là, ils sont arrivés en Allemagne, donc espérons que pour eux, que ça aille mieux. Quoi.
Tu nous rappelles qui sont les yézidis, Renan?
J'allais te poser la même question. Et c'est bizarre, j'allais te poser exactement la même question.
C'est une communauté qui vit en Irak principalement et qui sont ils sont quelques centaines de milliers. Et c'est une religion en fait. C'est très apparenté à une religion, les yézidis, une religion qui daterait de 4000 ans à peu près. Et une religion monothéiste très, très, très spécifique à ce pays. Et donc voilà, c'est simplement des gens qui font partie de cette communauté et qui naissent yézidis en fait. C'est-à-dire que c'est pas une religion qui s'adopte, mais c'est une religion de naissance. Et bien sûr, ils ont été particulièrement massacrés par Daesh quand il a pris le pouvoir dans la région, parce qu'il les a tout de suite déclarés comme des impies et des suppôts de Satan. Et donc il les a massacrés à tour de bras. Voilà. Ça avait fait la une de l'actualité il y a 2 ans pendant l'été, puisqu'ils avaient trouvé refuge dans des conditions très difficiles sur une colline en Irak. Voilà.
Tout à fait.
Quelques notes de musique avant de passer la parole à Mina qui va vous parler culture.
Got a rented flat. You got Persian kittens. I got tabby cat. You got art collections. I got comic books. You use plastic surgery. Stay the way I love you. Travel private jet. I stand by overnight. You romance with chandeliers. And I use candlelight. Said real good loving, the kind you can't afford. While you're enjoying banquets, I'm eating cafe snacks. You're in designer clothing, I'm in plastic mags. Sipping on a pudding brandy, I'm slinging a can of beer. Packing matching luggage, I mostly stand here. Your educated accent might beat the local slang. Don't bet your staff and the servants against my backstreet gang. Is this one thing I got more? When I'm rich, you poor. It's that real good loving, the kind you can't afford. Jackets and your ballroom gowns, no warmer than my jeans. Caviar, no more filling than a can of beans. Go to your classic concerts, I'll be with a local band. Keep your brand new everything, I'll keep my second hand. In your fitted bathroom, got my water tap. You think I'm full of envy? I know where the money's at. Oh, there's one thing I got more. When I much you pull. It's that real good loving kind you can't afford.
Sur l'antenne de Principe Actif. Donc c'est... Vous m'entendez là ?
Oui, très bien.
Oui, t'inquiète pas. Donc c'était Madeleine Perroux qui vient de chanter un morceau qui s'appelle The Kind You Can't Afford. Donc voilà, c'était sur un de ses derniers disques. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Madeleine Perroux, une chanteuse américaine, mais son père était d'origine française, je crois. D'où son nom, Perroux, qui est un nom bien de chez nous.
Et t'avais pas une petite anecdote sur la personne qui a écrit le morceau, non ?
Oui, je viens de voir qu'en fait, la musique du morceau était écrite par l'ancien bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman. C'est ce qui est marqué sur le disque. C'est comme ça que je le sais.
Si c'est marqué, c'est que c'est vrai.
Ah bah, faut croire. Donc voilà. Donc maintenant, c'est Mina qui doit vous parler culture.
Bonsoir pour la dernière émission de...
La saison.
La saison, parce que pas de l'année, vu que nous reviendrons à la rentrée. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Une colère noire, lettre à mon fils de Ta-Nehisi Coates, avec une préface d'Alain Mabankou. C'est un livre qui a été primé aux États-Unis en 2015. Le petit résumé, voilà ce qu'il faut que tu saches en Amérique. La destruction du corps noir est une tradition, un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois. Un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien te cacher. Dans cette lettre adressée à son fils de 15 ans, Ta-Nehisi Coates revient sur la condition de l'homme noir aux États-Unis. Une ode à l'humanité, un cri de colère contre ce mal qui gangrène la société américaine depuis des siècles. Voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter ce livre documentaire ce soir.
Tu nous donnes le titre ?
Une colère noire, lettre à mon fils. De Ta-Nehisi Coates. C-O-A-T-E-S. Deuxième livre.
Ah, tu en as un deuxième, Mina ?
Bah oui, je t'ai pas donné le titre. Ah, je l'ai perturbé, ma Françoise.
Françoise, elle croyait que tu n'allais parler que d'une colère noire.
Et non. Et j'ai même un troisième livre.
Ouais, peut-être qu'elle va sortir de sa poche.
Alors, une BD carnet de voyage de Baudouin, qui est venu en exposition à Évreux, qui vient souvent, sur le Chili et sur tout ce qu'ils ont vécu avec... que je vous dise pas de bêtises.
Avec la dictature de Pinochet, j'imagine.
Oui, j'allais le dire, mais j'étais pas...
si.
Alors, le petit résumé.
Suite au coup d'État de 1973.
Voilà. Et donc, il est allé à la rencontre de la population. Et c'est super beau, très intéressant. Différents points de vue, des ponctués de silence aussi. Le petit résumé.
Et ça parle de quoi, en fait, le livre ? Ça parle d'une vie de quelqu'un ?
De la vie des Chiliens, les gens racontent ce qu'ils ont vécu et maintenant comment ils vivent aussi. Lui, il voit, il parle d'eux. C'est un arbre qui a comme des mains au bout, des mains qui offrent. C'est un des arbres les plus vieux de la planète. L'arbre décrit ici par Baudouin, c'est l'araucaria, un arbre originaire du Chili. Pays qu'il va découvrir un mois durant en 2003. Invité par la bibliothèque de l'Institut franco-chilien, il est là pour donner des cours de dessin et pourtant il découvre et apprend autant qu'il enseigne. Dans les pages de ce carnet, on le retrouve en voyageur insatiable. Curieux de tout, des paysages et des autres, il est avide de mieux connaître ce pays encore meurtri par les terribles années de la dictature de Pinochet. Lui qui avait tant cru à la promesse du socialisme chilien et pleurer à l'Ende. De Santiago à Valparaiso, Baudouin garde aussi trace de ses rencontres chiliennes avec les étudiants, les Indiens, Mapuche ou d'anciens dissidents du régime militaire. Autant d'amitiés qui l'aident à comprendre le Chili, pays de Pablo Neruda, ce poète qui lui est si cher et qu'il avait pu rencontrer des années auparavant. Voilà, je crois que tout est dit.
Bien.
Ça vous donne envie de lire. Et, et mon petit dernier.
Ah, toi, tu n'avais pas tout dit alors.
Parce que.
Alors, Françoise, elle est perdue, Françoise.
Oh, pas du tout.
Je vous avais parlé de la place.
Troisième, elle le fait de tête.
À la place du cœur d'Arnaud Catherine, mon chouchou, sur les attentats de Charlie Hebdo. Et donc, il y aurait une suite. Et il y a la place du cœur 2. On voit les adolescents. Qui ont perdu un ami et qui ont vécu de loin l'attentat de Charlie Hebdo, qui sont allés manifester, la suite de leurs histoires. Et il est très bien, c'est une belle suite. Donc, à la place du cœur d'Arnaud Catherine, à lire aussi. Voilà mes lectures que je vous conseille pour cet été.
Et tu sais pas le nom de l'éditeur de ton dernier bouquin ?
Alors là, comme ça, je suis plus en examen, donc Robert Lafontaine, parce qu'il y a toute une pub.
Joué. Voilà, laissez même se reposer un peu, Mina.
Allez, vas-y, 20/20, Robert Lafontaine.
Et bien joué, parce que j'essaie de t'avoir, parce que tu es sa tête. Si.
En ce moment, je suis en fond dans les examens, il n'y a pas de souci. Vas-y, Robert Lafontaine.
Avec un bien, c'est sûr que...
Je n'ai pas posé la question pour essayer d'avoir Mina, pas du tout. C'est parce que si des gens cherchent tes bouquins en librairie, des fois, quand on a le nom de l'éditeur, c'est plus facile. Parce que des fois, la librairie demande... été édité chez qui ? Alors des fois ça aide de dire chez qui ça a été édité.
La BD, c'est l'association, l'éditeur. J'ai lu l'éditeur, ça va être...
C'est éditions J'ai lu.
Édition Autrement. Aussi.
Autrement, ah non, d'accord.
Pour la traduction française, Autrement, parce que c'est la collection J'ai lu. C'est pour ça d'accord. Que, si on veut être précis. Et à la place du cœur 2, c'est Robert Laffont.
D'accord, eh bien parfait. Françoise, je crois que tu voulais nous reparler d'un autre sujet.
Oui, eh ben, je vais vous parler de la Hongrie, sur ce qui se passe un peu en Hongrie. D'après Viktor Orban, des ONG financées par la fondation Open Society de Soros amènent des centaines de milliers de migrants en Europe et veulent mettre à terre l'Assemblée et le gouvernement issus de la volonté du peuple. Dans son discours annuel sur l'état de la Hongrie, le Premier ministre, Viktor Orban, énumère 5 dangers menaçant le pays qu'il dirige d'une main de fer depuis 7 ans. Bruxelles, l'immigration illégale et les organisations non gouvernementales soutenues par le milliardaire américano-hongrois George Soros figurent en bonne place sur cette liste. D'après Viktor Orban, les ONG financées par la fondation Open Society de Soros amènent des centaines de milliers de migrants en Europe et veulent mettre à terre l'Assemblée et le gouvernement issus de la volonté du peuple. Pourtant, si l'aspirant juriste Orban a pu étudier Oxford en 1989, c'est bien grâce à une généreuse bourse Soros. Mais 28 ans plus tard, il dépeint son ex-bienfaiteur comme l'ennemi numéro 1 du régime. Une vraie trahison. Tant la trajectoire d'Orban est liée à l'homme d'affaires originaire de Budapest. Sans les 4,7 millions de forints offerts par l'Open Society à la prometteuse Fidesz, le parti actuellement au pouvoir, qu'il venait de fonder, le jeune dissident anticommuniste n'aurait jamais eu les moyens de mener la campagne des législatives de 90, le propulsant sur les bancs dans l'Assemblée. Le talent oratoire avec lequel il avait à l'heure séduit Soros, Viktor Orban le met désormais au service de sa campagne anti-ONG. Le gouvernement estime que notre action viole les intérêts nationaux puisqu'elle serait soi-disant influencée par des intérêts étrangers. Avant 2010, les discussions étaient parfois tendues, mais il y avait au moins un respect mutuel. Les administrations précédentes nous consultaient lorsqu'elles élaboraient un texte de loi. Le pouvoir actuel ne veut même plus maintenir un semblant de dialogue. Il nous attaque sur la transparence, alors que le droit hongrois nous impose de dévoiler l'origine de nos subventions, déplore une association de défense des droits humains. Si les ONG magyares, marquées du sceau Soros, n'ont pas encore été totalement blacklistées comme à Moscou, elles pourraient en revanche être contraintes d'apposer la mention « financée par des fonds étrangers » sur leurs documents officiels. Bien que Budapest entretienne le flou autour du texte qu'elle mijote, celui-ci semble inspiré d'une loi israélienne votée en juillet dernier. L'idée aurait été soufflée à Viktor Orban par le consultant Arthur Finkelstein, éminence grise de Benjamin Netanyahou. Dans le projet de loi déposé le 7 avril par le parti Fidesz, il est prévu d'obliger les ONG à déclarer toutes leurs ressources étrangères et que les noms des donateurs figurent sur un site publié par l'exécutif. Pourtant, Orban, le militant libéral-démocrate d'antan, magnifiait le rôle de la société civile dans son mémoire de licence, s'inspirant du cas Solidarnosc. Son parti, tout juste créé, se définissait fièrement comme composant de cette famille avec lequel il a longtemps entretenu d'excellents rapports, y compris au début de sa mandature. À l'époque, il accepte sans réserve un don $1 million de l'Open Société destiné à réparer les dégâts causés par la catastrophe des Baux Rouges, un accident de l'usine d'aluminium d'Ajka ayant fait 10 morts et gravement pollué les sols en octobre 2010. Orban sollicitait aussi ce levier lorsqu'il était le porte-drapeau de l'opposition. Il nous a appelés au secours en 2006-2007 afin d'attaquer en justice les violences policières commises à l'égard des manifestants s'opposant au pouvoir sociaux-démocrate de l'époque. Et voilà comment il nous remercie aujourd'hui, ironise une directrice de l'association hongroise pour les libertés civiles, figurant au premier rang de l'empire Soros à nettoyer, selon la formule choc du vice-président de la Fidesz. Orban nous cible car il n'a pas d'opposition politique crédible en face. Répondre violemment ne ferait qu'attiser le feu nourri entre nous. Poursuivre notre action coûte que coûte est la meilleure riposte, poursuit cette ONG. Au cœur de Budapest, le 18 mars dernier, des conférenciers invités par l'Alliance Magyar des étudiants identitaires, dont l'extrémiste anglais Nick Griffin, longtemps la tête du British National Party, ont fustigé l'action en faveur des réfugiés menée par des ONG estampillées Soros. Elles y étaient accusées de couler l'Europe avec ses milliards et sa diversité mortifère. Face à ce déluge de critiques, plus de 200 ONG ont signé une tribune rappelant leur utilité et l'insécurité qui menacent leur rôle de vigie au sein d'une démocratie aux allures de démocrature. Un signal d'alarme déjà tiré à l'automne 2014 suite à la vaste offensive du KEHI. Cet office de contrôle gouvernemental avait alors confisqué les dossiers d'une soixantaine d'institutions accusées de fomenter contre la Hongrie un complot qualifié de « viking » car parrainé par le Fonds norvégien pour la société civile. Cependant, rares sont ceux dans la sphère associative qui croient à l'efficacité concrète de ces manifestes. Les coups de boucoutoir d'Orban et ses fidèles grignotent l'optimisme et l'espace d'expression de la société civile. Cette stratégie de la tension dissuade de nombreux donateurs craignant des représailles. Qui plus est, les ONG n'ont aucune voix au chapitre dans les médias de l'État, à l'instar de ce qui se déroule en Israël, en Turquie et en Russie. La rhétorique poutinienne d'Orban nous assimile à des agents étrangers agissant tels des espions, alors que l'appui budgétaire de Soros à notre siège londonien est assumé. Témoigne Aaron Demeter d'Amnesty International en Hongrie, qui prépare une campagne dévoilant la façon dont l'exécutif entrave l'action des associations de défense des droits humains. Les autorités rivalisent en effet d'obstacles visant les ONG plus ou moins soutenues par Soros. Budapest Pride, pilier de la sphère LGBT locale, s'est vu refuser la location d'une salle pour une soirée culturelle. Les activités du Kretat Corps, encourageant l'éducation culturelle et l'aide aux démunis, ont subi des audits fiscaux inhabituellement longs et fouillés, les empêchant de candidater à plusieurs appels d'offres. Le comité Helsinki Budapest doit plaider ses cas devant les tribunaux européens, faute de justice hongroise indépendante. Orban déguise les ONG en partie du migrant afin de mieux les discréditer aux yeux d'une population dopée à la peur du terrorisme islamiste. Une association sauvant les chatons errants est forcément moins menaçante pour lui que la nôtre, taclant les violences envers les réfugiés à la frontière serbe. Au lieu d'argumenter, le gouvernement nous traite de menteurs ou de traîtres. Heureusement que nous ne sommes pas inscrits ici. Qui sait quelle manipulation administrative il inventerait pour nous coincer. Lydie Goll, chercheuse de Human Rights Watch en Hongrie et dans les Balkans, dit ceci. De son côté, Joseph Peter Martin de Transparency International Hongrie tempère. Le projet de loi et les mots très durs prononcés à notre égard alimentent avant tout une bataille de communication. Le plus important pour le gouvernement n'est pas de la gagner, mais de la provoquer. Au fond, nous sommes un adversaire commode de l'exécutif, comme l'Union européenne, Bruxelles et les migrants. Orban veut certes nous affaiblir, mais n'a aucun intérêt à nous abattre. Insultés, intimidés, fragilisés, les ONG magyares refusent néanmoins de jeter l'éponge. Mi-mars, la Cour européenne des droits de l'homme a statué en faveur du comité Helsinki Budapest, dénonçant la détention illégale de deux réfugiés pakistanais. Confinés 23 jours dans une zone de transit à la frontière hongroise, ils avaient ensuite été renvoyés en Serbie sans procédure formelle ni accès à un avocat. De son côté, le Parlement européen a voté le 18 mai en faveur de l'application de l'article 7 qui pourrait restreindre les droits de vote de la Hongrie au Conseil européen. Une manière de lui rappeler les principes fondateurs de l'Union. Viktor Orban poursuit néanmoins son combat contre les mercenaires de Soros, érigés au rang de priorité nationale, car il doit non seulement protéger son pays comme il le martèle à longueur de discours, mais surtout défendre son poste lors des élections législatives prévues en 2018.
J'ai entendu, pour rajouter un petit complément d'information, j'ai entendu récemment que les discussions continuaient entre la Fondation Soros et les États-Unis aussi, et puis les autorités hongroises, par rapport à l'interdiction ou non de cette université, enfin, ou au gel des subventions, enfin, etc. Et ce qui est frappant dans ce que vient de nous dire François, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire la théorie du complot. On complote contre nous, les ONG complotent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est systématiquement évoqué, à tort et à travers. Et aussi le fait de manipuler les nationalités les unes contre les autres. Quand tu parlais tout à l'heure de complot scandinave, c'est ça?
Oui,
ou d'action
oui.
Scandinave, viking.
J'ai entendu rigoler à dire
Merci Ronan, oui. C'est ça. C'est quand même hallucinant d'entendre dans la bouche d'un gouvernement de dire effectivement qu'il y a un complot viking. Enfin, je veux dire, ça nous ramène dans les années 30 en Europe. Quoi. Je veux dire, on a entendu ce discours-là tellement de fois. Et tellement de fois, ça a été démontré et archi-démontré,
oui,
qu'évidemment, c'était entièrement faux, qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Les arguments et la mauvaise foi est toujours la même parmi les gens qui utilisent ces rivalités. Et on connaît toujours les conséquences. C'est toujours effectivement la violence qui découle de tout ça. Donc voilà, c'était un utile rappel de Françoise par rapport à la dérive d'un État membre de l'Union européenne et qui commence à sérieusement maltraiter les droits humains fondamentaux. Ronan voulait vous parler d'autre chose, d'un autre pays où nous emmène-t-on ? Où nous emmènes-tu ?
Moi, ça va être vers l'Afghanistan. Je vais vous lire un petit article qui a été écrit par Nachi, qui est une chercheuse spécialiste des droits des migrants et des réfugiés à Amnesty International. Dès le moment où vous sortez de l'aéroport de Kaboul, la première chose qui vous frappe, ce sont les roses. Il y en a partout. Le long de l'autoroute poussiéreuse menant à la ville, en grappe dans des parterres au milieu des ronds-points, fleurissant dans des jardins privés. Vous remarquez ensuite la peur. Les étrangers se cachent derrière leurs murs renforcés de sacs de sable, derrière des fils de fer barbelés, des gardes armés et des véhicules blindés. Mais beaucoup d'Afghans sont également terrifiés, notamment ceux qui ont fui le pays mais qui ont dû y retourner récemment contre leur volonté. Il y a toutes les raisons d'avoir peur. Le gouvernement fragile lutte pour affronter les talibans qui sont probablement bien plus puissants aujourd'hui qu'à aucun autre moment depuis 2001. D'autres groupes armés d'opposition, notamment le groupe se faisant appeler État islamique, ont pris le contrôle de certaines parties du pays et mènent des attaques dévastatrices jusque dans les zones sécurisées de Kaboul et ailleurs. Les événements violents sont de plus en plus fréquents. D'après les Nations Unies, 2016 a été l'année la plus meurtrière en termes de victimes civiles depuis le début des statistiques en 2009. Lorsque mes collègues d'Amnesty International et moi étions à Kaboul en mai 2017, une attaque a eu lieu contre une ONG suédoise dans la ville et un employé allemand de l'organisation ainsi qu'un garde afghan ont été tués. Et une Finlandaise est très probablement a été enlevée. L'attentat à l'explosif terrifiant de mercredi 31 mai près de l'ambassade allemande dans le centre de Kaboul, qui a tué 80 personnes et en a blessé 350, dont la grande majorité étaient des civils afghans, montre que le conflit en Afghanistan, au lieu de perdre en intensité, s'intensifie dangereusement. Les autorités britanniques et américaines déconseillent à leurs citoyens de voyager en Afghanistan car elle resterait dangereuse en raison du risque d'enlèvement, de prise d'otages, d'opérations militaires, de la présence des mines, du banditisme et de la rivalité armée dans les groupes politiques indigènes et des attaques insurgées. Et pourtant, les gouvernements occidentaux ont jugé que le pays était suffisamment sûr, vous entendez bien, le pays est suffisamment sûr pour que les demandeurs d'asile afghans y retournent.
Bien sûr. Ça tombe sous le sens.
Ouais, alors, au cours des 15 dernières années, plusieurs pays européens ainsi que l'Australie ont signé des protocoles d'accord avec l'Afghanistan dans lesquels le pays accepte de réadmettre ses citoyens sous certaines conditions. Les arrangements de ce genre ne sont pas forcément excessifs, mais leur mise en œuvre doit être conforme au droit international qui interdit aux États de transférer des personnes s'il existe un risque de grave violation des droits humains. Néanmoins, même si la situation d'Afghanistan a clairement empiré, les gouvernements occidentaux ont accentué leurs efforts pour y renvoyer les Afghans qui ont fui la guerre de persécution. Lors d'une conférence sur l'aide humanitaire en octobre 2016, sous la pression de l'Union européenne, le gouvernement afghan a signé l'action conjointe pour le futur avec l'Union européenne. Ce document ouvre la voie au retour forcé d'un nombre illimité d'Afghans vivant en Europe. Un membre anonyme du gouvernement afghan a appelé cet accord une coupe empoisonnée que le pays était forcé d'accepter en échange d'une aide au développement. Des centaines de personnes ont été renvoyées depuis que cet accord a été signé il y a 6 mois. Mes collègues et moi avons récemment parlé avec des Afghans expulsés d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège et de Suède. S'il est vrai que tout le monde est en danger en Afghanistan, beaucoup des personnes renvoyées auxquelles nous avons parlé étaient extrêmement vulnérables et leur envoi violait très probablement le droit international. Un jeune homme que j'appellerai Azad est en grand danger à cause de son orientation sexuelle. L'Afghanistan est riche en infractions l'homosexualité et des informations font état de harcèlement, de violence et d'arrestation par la police. Lorsqu'Azad a découvert qu'il avait été renvoyé d'un pays européen, il a essayé de se donner la mort et a été placé dans la catégorie des détenus risquant de se suicider avant d'être renvoyé de force. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il venait à Kaboul. Il a déclaré « Je n'ai nulle part où aller. Je vais peut-être rejoindre les drogués dans l'ouest de la ville pour avoir un abri. » Malgré son jeune âge, Azad a survécu à un grand nombre de tragédies. Après avoir fui la guerre en Afghanistan, quand il était enfant, il a grandi en Iran et a plus tard perdu sa mère quand sa famille a essayé de rejoindre l'Europe. Alors qu'il était visiblement effrayé pendant notre conversation, il s'est complètement effondré en parlant de sa mort. Tout ce que je veux, c'est visiter sa tombe. Un autre homme, Farid, est en danger de persécution pour des raisons religieuses parce qu'il s'est converti au christianisme. Comme Azad, il a quitté l'Afghanistan quand il était enfant, a grandi en Iran et ensuite fui vers un pays européen. Il a terriblement peur de ce qui risque de lui arriver en Afghanistan, toujours sous le choc de son renvoi de son pays d'adoption et de sa communauté religieuse. Il a déclaré « J'ai l'impression d'être tombé du ciel, je n'arrive pas à croire que je suis ici ». Lui aussi n'avait jamais été à Kaboul. « Je ne connais rien à l'Afghanistan », m'a-t-il dit. « Où vais-je aller ? Je n'ai pas les moyens de vivre seul et je ne peux pas vivre avec ma famille parce qu'ils verront que je ne prie pas. » Leurs histoires sont malheureusement loin d'être exceptionnelles. Certaines personnes expulsées ont déjà subi des violences après avoir été renvoyées de force en Afghanistan. Un Afghan renvoyé d'Allemagne en janvier 2017 a été blessé lors d'un attentat suicide près de la Cour suprême à peine 2 semaines plus tard. D'après les informations récentes d'Afghan Analyst Network, plusieurs autres personnes, dont des jeunes enfants, ont été blessées dans des attaques de groupes armés à Kaboul, nous a dit un membre de l'organisation afghane de soutien et du conseil aux migrants. Aucun d'entre eux n'aurait dû être renvoyé lorsqu'ils sont sortis de l'aéroport. Le pays était pour beaucoup d'entre eux certainement aussi inconnu que pour moi. Les risques sont beaucoup plus importants pour eux. Les gouvernements et dirigeants européens savent que l'Afghanistan n'est pas un pays sûr. S'ils n'arrêtent pas de renvoyer des gens comme Azad et Farid, ils auront du sang sur les mains.
On pourrait même proposer, puisqu'on arrive bientôt aux vacances d'été, proposer aux autorités européennes qui ont décrété que l'Afghanistan était un pays sûr d'aller y faire un tour pendant leurs vacances pour aller effectivement prendre le soleil là-bas.
Ah,
ils verraient à quel point c'est cool l'Afghanistan à l'heure actuelle. Surtout en se faisant... Voilà. Enfin bref.
Et
enfin,
moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fin de compte, soi-disant, je me rappelle qu'après 2001, on était partis là-bas pour arrêter les talibans, tout ça et tout. Et alors qu'aujourd'hui, ils sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts qu'à l'époque. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ?
C'est un grand débat. C'est les
Américains. Non, je suis d'accord avec toi.
Non, c'est les Américains qui ont mis en place les talibans au départ.
Mais je le sais bien.
Dans les années 90. Hein, s'il n'y avait pas les Américains qui les avaient financés,
mais non, l'histoire, je la connais. Mais l'excuse d'aller là-bas pour ça, alors qu'aujourd'hui, en fin de compte, on a tout fait l'inverse de ce qu'il fallait faire.
Bon, le temps passe.
C'est mon avis personnel.
Le temps passe. Je propose qu'on mette quelques secondes de musique, mais après j'ai encore un petit sujet. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour sa dernière partie de l'émission, c'est Amnesty International Évreux. On vient d'entendre quelques secondes de musique d'un groupe qui s'appelle My Morning Jacket, groupe américain. Voilà. Donc moi je vais juste vous parler de notre actualité locale et puis vous dire quelques mots d'un article qui est paru dans la chronique. Je vous rappelle que la chronique c'est le mensuel d'Amnesty International France. Vous pouvez vous abonner en ligne sur le site d'Amnesty, n'hésitez pas. Donc notre actualité locale, c'est dimanche. Donc si vous avez du temps dimanche, et vous en aurez forcément, et ils annoncent le retour du beau temps en plus pour ce week-end, parce que là il pleut un peu, on voit à travers la fenêtre du studio.
Ben, tant mieux hein, s'il pleut.
Oui, tant mieux s'il pleut. Mais ils annoncent le retour du beau temps. Donc dimanche, on fait une foire aux livres à côté de notre local, pour ceux qui vous le connaissez forcément, enfin, c'est au rond-point
Saint-Léger,
à l'espace Saint-Léger, sur la petite place. Rond-point, c'est le dernier rond-point pour quitter Évreux quand on va vers Cap-Caire et Gravigny et Rouen. Donc, voilà,
il y aura un parking. Vous avez fléché le parking ?
Oui, tout sera prêt. Tout sera prêt. Donc, c'est une foire aux livres de 9h.
Ah bon, on ne peut pas nous rater, on sera dans le parking.
De 9h à 17h. Et donc, venez nous voir. Venez, on a quelques milliers de livres à vous proposer à un prix très dérisoire. Et pour vos lectures d'été, c'est tout à fait une bonne opportunité. Vos lectures pendant les vacances. Et aussi, c'est aussi en soutien par rapport à Amnesty, parce qu'on vous rappelle, mais ça vous n'êtes pas le sens de savoir non plus, qu'Amnesty International, refusant bien évidemment toute subvention de tout État, groupement et entreprise, etc., etc., ne se finance qu'avec l'aide du public. Et le groupe d'Évreux, entre autres, se finance aussi et surtout avec ses foires aux livres.
Et le public, c'est vous.
Voilà. Donc dimanche, 9h-17h, dimanche 2 juillet, 9h-17h, sur le parking de l'espace Saint-Léger. Une foire aux livres pour venir soutenir les droits humains et bien sûr participer à nos actions, signer les pétitions, etc. Voilà, on vous attend nombreux. Donc moi, je voulais vous donner quelques nouvelles, quelques informations, voilà. Sur donc cet article qui est paru dans la chronique, qui est l'interview d'un psychiatre qui s'appelle Monsieur Serge Ephèse et qui est spécialisé dans le traitement des jeunes radicalisés qui sont partis en Syrie, etc., ou qui sont incoquinés avec Daesh, et dont on parle beaucoup dans les informations en France. Et lui, en fait, il s'occupe d'essayer de les remettre en état, entre guillemets, psychologique, à leur retour. Alors, je vais devoir faire court, donc je vais vous lire simplement quelques extraits de son article, qui est tout à fait intéressant. C'est une interview. Alors on lui demande, ces jeunes que vous recevez en consultation, possèdent-ils des points communs ? Il répond, ce qui nous a surpris au début, c'est la variété des profils de ces mineurs, de leur motivation, de leur relation avec la croyance. Nous recevons beaucoup de filles, mais c'est un biais de recrutement. Les familles se mobilisent davantage autour des filles que des garçons, parce que leur conversion est plus visible. Une adolescente qui porte le niqab du jour au lendemain, dans une famille athée, catholique, juive ou musulmane peu pratiquante, évidemment, ça interpelle. Pour les adolescents qui ont un passé un peu marginal, voire délinquant, les parents sont presque rassurés dans un premier temps de voir leur fils se ranger des voitures. Ils ne fument plus de shit, ne sortent plus avec les copains, font moins de bêtises. La famille commence à s'inquiéter quand le môme est déjà parti en Syrie ou sur le point de partir. Le seul point commun de ceux que nous recevons est leur jeunesse, ce moment de l'adolescence qui questionne les choses de la vie avec exigence et intransigeance. Un peu plus loin, ce qui m'a frappé dans l'interview, c'est ce paragraphe suivant. On lui demande concernant les adolescentes, quelle est la spécificité de leur embrigadement. Chez beaucoup de jeunes filles radicalisées, on observe des antécédents d'abus sexuels. Ce n'est pas simplement caractéristique de ces filles qui se radicalisent. Parmi les adolescentes ayant des problèmes psychiatriques de troubles alimentaires, d'automutilation, de tentatives de suicide, etc., la proportion de celles qui ont subi des abus sexuels est importante. D'après mes observations cliniques, le port du voile présente une analogie avec le comportement anorexique qui touche aussi beaucoup de jeunes filles. On retrouve cette problématique de l'accès au corps sexué. J'ai été frappé de voir des adolescentes fétichiser le niqab au-delà du sens religieux qu'il revêt. Même quand elles sont désembrigadées, il aurait été difficile de se séparer de ce niqab qui constituait une enveloppe protectrice, leur permettant de mettre de côté la question du corps sexué, érotique, visible dans l'espace public. Je me souviens d'une fille portant le niqab qui me disait qu'à l'arrêt de bus, des garçons venaient la saluer et même demander sa main, alors qu'auparavant, habillée en jupe ou en jean, ils lui tenaient des propos salaces. Ce vêtement leur donne une autre vision d'elles-mêmes, un peu virginale. Par ailleurs, ces filles converties sont souvent en lien avec des rabatteurs qui leur présentent un fiancé réel ou imaginaire, en tout cas virtuel. Cet homme les inonde de messages, de SMS d'amour en leur disant qu'elles sont belles, formidables, qu'ils vont les épouser, etc. Et leur estime de soi se trouve ainsi incroyablement stimulée. Voilà, donc il y a des choses tout à fait passionnantes dans cet article, hein, c'était juste deux petits extraits, mais comme le temps passe, on va s'arrêter là. Et donc je vous recommande sa lecture, ça s'appelle donc « La famille est mon outil pour soigner les jeunes embrigadés ». C'est une interview du psychiatre Serge Effès qui soigne ces gens et c'est paru dans le dernier numéro de la chronique, le mensuel d'Amnesty International France, dont nous vous recommandera jamais assez la lecture. À bientôt, c'est quand l'émission de rentrée?
Ça sera moi.
Ça sera à la rentrée. Hein.
Ce sera à la rentrée, mais on va quand même vous dire la date, le 12 septembre.
Et très bel été à vous.
Allez, bon été.
À 19h.
Bon été à tous.
Bonnes vacances.